Tov. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons traiter de Lag BaOmer. Lag BaOmer est une journée très spéciale dans le calendrier du peuple d'Israël qui n'est pas mentionnée dans la Torah écrite ni réellement dans la Torah orale comme un jour qu'il faut marquer, mais il a marqué l'histoire du peuple d'Israël. Cette journée appartient plus précisément à Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Tagen Alenu Amen, qui est un des plus grands Tanaïm que le peuple juif n'ait jamais connu. Cette personnalité hors du commun dit d'elle-même qu'à elle seule, que lui seul, Rabbi Shimon, est capable de sortir ce monde de ce qu'on appelle Midat Hadin. Et on va le voir sur texte. Birshut Arav, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechuto Yagen Alenu Amen, Amar Shehu Levado Mesugal Haya Liftor Et Ha'olam Kulo Mimidat Hadin. Autrement dit, le monde qui a été créé par Midat Hadin et qui normalement devrait être très coupant, puisque Midat Hadin ne supporte rien qui ne soit pas selon les critères divins. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui sort des rails, c'est fini. Selon Midat Hadin, quelqu'un qui profane le Shabbat meurt tout de suite. Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, dit qu'il peut sortir ce monde de cet attribut de rigueur tellement fort. À quoi fait-il référence en disant ça ? Réponse, Hadvarim meyuchasim le divrei Antoninus. C'est par rapport à ce que Antonin, l'empereur, a dit à Rabbi dans le traité de Sanhédrin à la page 91. Que dit ce Antonin qui avait des dialogues avec les enfants d'Israël de l'époque et avec les sages de l'époque ? Antoine, Antoine. Il dit là-bas, Gouf ou Neshama yecholim liftor atzmam min hadin. Le corps et l'âme peuvent tous les deux s'acquitter de l'attribut de rigueur divine. Pourquoi ? Dit Antoine, Gouf Omer, le gouf dit, le corps dit, Neshama chata. C'est la Neshama qui a fauté. Durant toute ma vie, moi, je n'ai jamais rien fait. La preuve, chez Miyom, chez Parsha Himeni, le jour où elle m'a quitté, cette Neshama, Hareni Mutal Ke Even Domer, je suis devenu comme une pierre, inanimé, je ne bouge pas. Donc vous comprenez bien que je n'ai jamais bougé en réalité. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'était la Neshama qui était en moi. Donc après la mort, si tu veux me juger à Kadosh Baruch Hu, comment tu vas me juger ? C'est la Neshama qui a fauté. Moi, j'y suis pour rien. Hein ? Alors, justement, c'est un problème. Mais pour l'instant, le corps est en train de dire quelque chose qui tient la route, apparemment. Mais Antoine dit qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien, personne qui est jugé. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va prendre l'autre côté. Neshama Omeret, la Neshama, elle, quand on vient lui dire, tu sais ce que le corps m'a dit, c'est toi qui faisais toute la panique. La preuve que c'est que le corps, depuis que la Neshama est sortie, il est dans son tombeau sans bouger. Alors Neshama, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire pour te défendre? Elle dit la Neshama, Goufrata, c'est pas moi qui ai fauté, c'est le corps. La preuve, c'est que dès que je suis sorti de ce corps, je suis libre et je suis revenu comme un oiseau vers les valeurs que je connaissais tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a ici un problème qu'Antoine met en relief, c'est qu'on ne peut apparemment pas juger ni le corps, ni la neshama, puisque chacun dit que c'est la faute de l'autre. Okay? Alors, Akadosh Baruch Hu, que fait-il? Il met le corps et la neshama ensemble. Il leur dit en réalité, vous êtes tous les deux dans cette faute. C'est le lien entre les deux qui n'était pas convenable. Et en réalité, ha'emeti ki kviato shel Antoninos, ce que dit Antoine, c'est pas loin de ce que disent les chachamim dans la halakha. To'em et ta ikaron ha'ilchati ha'omer. Mais que dit la halakha? Shnaim she'asu melacha biyachad beShabbat pturim. S'il y a deux personnes ensemble qui ont fait une erreur Shabbat, elles se sont entraidées pour faire la Avera, elles sont quittes. Pourquoi? Parce que chacun n'a pas fait une Avera complète. Okay? Selon la halakha, comme ça c'est marqué. Ma? Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un a sorti un élément, on n'a pas le droit de sortir du Reshut Hayachid au Reshut Arabim. Mais si un a fait la moitié du travail, c'est-à-dire il a pris un objet, il a fait sortir dehors, mais il n'a pas déposé, et que l'autre lui prend de la main et qu'il le dépose, et qui tu vas condamner? Pour faire une Avera de ce genre Shabbat, il faut et prendre l'objet, et le faire sortir, et le déposer. Ça, c'est une Asiya complète, une action complète. Or là, il y a une demi-action, on s'est arrangé tous les deux pour faire un délit. Vous avez compris? Ça veut dire que ce sont des combines, entre guillemets, pour court-circuiter ou pour contourner la halakha. Et donc la halakha nous dit ça. Ou les fizenir e, ki advarim nechonim gam leshituf aguf ve'aneshama. Donc peut-être que c'est la même chose pour la combinaison esprit-corps, neshama-corps, où chacun fait un petit peu du travail et on ne sait pas très bien vers quoi on va. Mais ce qu'on vient de dire, c'est vrai, mais à une seule condition, il y a quand même des limites. Laquelle? Si vraiment on ne peut pas faire l'action, seulement si on est deux, alors les deux sont condamnés. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une condition qui vient et qui, en réalité, te met des limites, te dit attention. Ça, c'est vrai quand on ne peut pas faire l'action séparément. Alors, si les deux la font ensemble, d'accord. Mais si je peux, chacun d'entre eux peut faire ce travail, ça ne marche plus. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer entre le corps et l'âme. C'est-à-dire, personne d'entre eux ne peut faire le travail complètement à lui seul. La Neshama, comme elle le dit, elle a raison. La preuve, c'est que dès que je suis sorti, je suis tranquille. Moi, je n'ai jamais fauté. Elohai Neshama Shenata Tabi Tehora. Et le corps dit, moi, je n'ai jamais rien fait. C'est le corps qui fautait. C'est la Neshama qui... C'est le corps qui fautait. Parce que, regardez, je suis dans le tombeau. C'est le corps qui parle. Je suis comme une pierre. Je ne bouge pas. Donc je suis limité. She'enam yicholim letafket ki'im beyotam mechubarim. Donc leur association, c'est elle qui crée le problème. Moralité, notre travail dans ce monde-là, c'est justement, et la difficulté se trouve dans le mariage entre la neshama et le corps. Jamais dans le corps seul, jamais dans la neshama seul, mais dans le mariage entre les deux. Et ça, ça devient quelque chose de très profond à étudier.
Donc du coup, là, ce que je comprends bien, les deux devraient être fautifs.
Ils ne sont pas fautifs, puisque chacun ne peut pas faire le travail seul.
Alors, qui est fautif, alors?
Et justement, c'est ça le problème. Vient Rabbi Shimon, et qu'est-ce qu'il dit? Personne n'est fautif. Incroyable. C'est-à-dire, si j'écoute Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut juger personne. Et donc, je reviens à ce qu'il a dit au départ. moi, à moi seul, je peux acquitter le monde de tout jugement divin. Incroyable. Ça veut dire, Rabbi Shimon Bar Yochai vient dire que personne ne faute en réalité, parce que la Neshama, elle est d'un niveau de sainteté extraordinaire qui ne faute jamais. Et le corps, de temps en temps, il fait des bêtises, mais c'est rien, c'est un nettoyage à nettoyer. Et que de toute façon, comme il ne peut pas faire les choses séparément, donc on ne peut pas les juger. Nous avons ici donc une éducation, un style d'étude qui appartient à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce style d'étude, vous allez le retrouver tout au long du Talmud. Quand vous étudiez la Gemara et que vous arrivez à une parole de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous êtes sûr que quoi ? Qu'il va trouver une combine pour libérer le fauteur en question. Ça veut dire que dans sa nature profonde, Rabbi Shimon Bar Yochai tend vers la Kula et pas vers la Khumra. À chaque fois qu'il y a un problème, généralement quand tu ne sais pas, tu dis, il vaut mieux ne pas faire. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, mais non, t'inquiète pas. Tout va bien. Je suis en train de prendre une chaise Shabbat, je suis en train de la traîner parce qu'elle est lourde, j'arrive pas à la lever. Je suis en train de faire des sillons par terre. Je suis en train de dessiner par terre. La Torah te dit, la Halakha te dit, tu es en train de fauter là, tu es en train de dessiner par terre. Rabbi Shimon il te dit, mais pas du tout. Pourquoi tu veux dessiner? Tu n'es pas malade. Il ne veut pas dessiner, il veut prendre la chaise. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai ne va pas selon ce qui est visible à l'œil, mais selon ta volonté intérieure au moment où tu fais la chose. Si tu n'étais pas du tout en train de vouloir dessiner, on n'a jamais vu quelqu'un en train de dessiner un dessin par terre avec une chaise. Tiens, ou alors tu es un petit peu fatigué. Donc Rabbi Shimon dit, puisque tu as fait ça parce que tu voulais, et ce qui t'intéressait c'était seulement t'asseoir, laisse tomber. Incroyable. Quel?
Là, on parle juste de la. On parle de la. De la conséquence de la faute. La faute, elle y est. Même si vous voulez pas, il n'y a rien de dessiner.
Non, pourquoi c'est une faute de dessiner par terre?
Pendant Shabbat, peut-être.
Mais c'est pas ce qu'il veut.
Non, la conséquence, elle y est pas. Après, on va pas lui mettre le djinn qui va prendre des coups de feu, qui s'arrête dans son compte de faute. Mais c'est quand même une erreur qu'il a fait. Enfin, ça se souvient, il n'y a pas de souvenir.
Non, non, non. Non, ça, c'est ce que tu es en train de dire. Que si tu n'es pas dans ta volonté de faire la chose, toi, tu es en train de condamner parce que quelque chose a été fait. On est d'accord, c'est ce que tu es en train de dire. Alors, même si je ne suis pas conscient de ce que je fais, je suis condamnable.
Non, je n'ai pas dit que je suis condamné.
Ben oui, tu dis que c'est une avéra.
Oui, mais c'est
pas du tout. Est-ce que... Attends. Est-ce que si je prends la voiture pour accompagner ma femme enceinte à l'hôpital, je fais une avéra?
Non.
Alors, tu es en train de dire la même chose. De facto, celui qui me filme, il filme une voiture en train de rouler Shabbat. Tu te contredis.
Donc, y a pas
la tu es en train de devenir comme Rabbi Shimon. Vas-y.
Comment Rabbi Shimon il considère le libre arbitre?
Ah, les athlètes.
Le Moukse, par exemple, comment on fait du coup?
Ça, c'est encore autre chose. Nahon. C'est une préparation pour la chose en question. Mais la chaise n'est pas Moukse, que je sache. Il y a fait. Donc, si j'ai pris une chaise Shabbat, je t'ai pas dit que tu as pris un marteau. Tu as pris une chaise. Maintenant, si tu as pris un marteau, mais que tu avais dans la tête, avant Shabbat, de casser des noix, lui aussi devient autorisé le marteau. Mais donc fais attention.
Et s'il savait qu'il dessinerait, en fait,
il s'en fiche, c'est pas son but. C'est pas son but, comme je vous ai dit tout à l'heure, à moins d'être très fatigué, il y a des artistes qui prennent des chaises pour dessiner. C'est pas notre but. Vous avez compris? Attends, il y avait une question avant.
Question sur un exemple différent, c'est parce que là c'est un dessin sur le sol, donc
oui.
Forcément on peut se dire ça.
Nahon.
Mais si par exemple on prend l'exemple classique des téléphones portables qui sont dans un commerce vraiment pas cachère, d'enfants qui travaillent, etc. Notre intention n'est pas d'alimenter ce commerce, mais en l'achetant, de facto, on l'alimente. Alors comment se situer?
Il y a fait. C'est une très très bonne question. Là il faut commencer à voir un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir d'un degré qui peut être négatif. Selon Rabbi Shimon, d'après ce qu'on vient de dire, il n'y a aucun problème. Sinon, de toute façon, tu ne pourras jamais avancer dans quoi que ce soit dans la vie.
Donc il enlève les barrières des rabbinim alors.
C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un novateur dans la Torah qui vient, qui met un grand coup de pied dans la fourmilière.
Là, la vie de Rabbi Shimon, c'est pas la halakha, quoi.
Non, j'ai pas encore dit. Il a fait, tu as raison. La halakha n'est pas comme lui. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas encore dans cette conscience-là. Même si, dans le fond, il a raison. Ah, Léat, Léat, on est en train d'arriver. Ken ?
Deux.
Ouais. Oh, ça fait trois shekels. Bon, vas-y.
Non, la première, en fait, selon Rabbi Shimon, c'est que les fautes qui sont involontaires.
Oui. Okay. C'est-à-dire que tu n'as pas dans l'idée de fauter où tu ne sais pas, tu es complètement inconscient de ce que tu es en train de faire, ou de toute façon, tu n'as pas l'intention de faire ça.
Et deuxième, comment Rabbi Shimon peut dire ça, alors que c'est lui-même, quand il est sorti de la grotte, il a tué quelqu'un parce qu'il travaillait Shabbat ou parce qu'il
faisait. Il a fait, mais. Mais lui, il fait volontairement. En réalité, pourquoi il a tué quelqu'un parce qu'il travaillait. Tu crois qu'il a tué quelqu'un parce qu'il travaillait Shabbat? J'ai pas compris où tu as cherché ce cri douche-là. Je l'ai dans aucune Gemara. Donne-moi ta Gemara, elle m'intéresse. Tu dois avoir une édition que personne n'a.
Non, c'est perso.
C'est perso. Il a jamais tué quelqu'un parce qu'il profanait le Shabbat.
Ah, pourquoi?
Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a bourré la terre, déjà d'une. Mais pas Shabbat, hein? Ah, c'était pas Shabbat, c'était un jour de semaine. Encore pire. Alors, c'est quoi la réponse? Non, pas du tout. Pas du tout. Exactement, c'est parce que c'était au moment où il y avait une domination romaine sur la terre d'Israël. Et il disait, tu es en train de leur donner de la force aux Romains. Arrête!
Mais il savait pas, il fallait pas faire ça pour ça.
Pas du tout, au contraire. Le type, il savait qu'il y a une domination romaine sur la terre d'Israël et il faisait le travail pour cet empire romain. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, dans cette condition, il se dit, moi, je suis un dati leumi, je ne supporte pas ça. Si je n'ai pas un gouvernement israélien sur ma terre, on ne fait rien ici. Vous avez compris? Oui. Ça veut dire que c'était en réalité un nationaliste religieux qui ne supportait pas une souveraineté étrangère à Israël sur sa terre. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que c'est un des plus grands sionistes de l'histoire. Si tu associes maintenant cette image à ce qu'on vient de dire, tu commences à comprendre un petit peu plus pourquoi. Vous comprenez que Rabbi Shimon n'était pas du tout contre le travail de la terre sur la terre d'Israël, mais à condition que tu aies un gouvernement. Ça veut dire aujourd'hui, si Rabbi Shimon est là, et que tu laboures ta terre, qu'est-ce qu'il te dit? Chazaku Baruch, continue. Ah ben voilà, c'est ça un problème. De toute façon, tu ne peux pas être là-bas, selon Rabbi Shimon. On ne sort pas d'Israël. C'est déjà d'une. Comme ça, il y a ça même pas le mot qui commence par F n'existe pas. C'est toute sa Torah. Je ne peux pas mettre sur un pied, mais toute sa Torah, c'est ça. Toute sa Torah, c'est ça. Et si tu vois ce que le Zohar HaKadosh dit concernant ceux qui n'habitent pas en terre d'Israël, tu commences à comprendre un petit peu plus. Et il dit, pour ne pas trop vous faire peur, c'est que ceux qui payent leurs impôts en dehors de la terre d'Israël parce qu'ils travaillent pour des nations étrangères à sa propre nation, ça ressemble à un homme qui jette sa semence par terre sans avoir d'épouse. Terrible. Ça veut dire qu'en réalité, tu as quitté ton épouse, la terre d'Israël, pour aller te marier avec ta maîtresse, Francine.
Françoise.
Antoinette. Ok ? C'est grave. Donc de là, tu commences à comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est très, très sévère avec ceux qui quittent la terre d'Israël. Il y a fait. Donc ça, c'est au niveau de la halakha pure, encore une fois. Rabbi Shimon n'y sort pas. Au niveau de la halakha pure, tu as le droit de sortir pour trois choses à condition de revenir. Ça veut dire, même dans la halakha pure, la condition c'est de revenir. C'est juste de faire ce que tu as à faire, 1, 2, 3, 4, 5 et revenir. 1, 2, 3, pas 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, la plupart des gens qui citent cette halakha ne citent pas que la condition c'est de revenir. Ou bitnaï shiyashuv. Ils te disent, tu as le droit de sortir. Extraordinaire. J'adore quand on coupe les trucs au milieu. Okay, travail de journaliste. Tu montes juste une image. Un soldat qui est en train de tenir un flingue. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait à côté. Dans l'autre main, il est en train de donner un sandwich à un petit palestinien qui n'a même pas de quoi manger. Ça, tu ne verras jamais. C'est toujours comme ça. Donc faites attention, soyez honnête quand vous dites et qu'on vous citait une référence quelconque. Ok, on continue. Donc, Al Zeba Rabbi Shimon ve Omer Shuken poter et Haguf et Hakol mimidat adin ve Kovea Shachataim einan naasim beshituf Haguf v'Hanshama kevan Shanshama tamid nisheret betaharata veinan nifgemet klal veikar. Ça veut dire que Rabbi Shimon, il est tellement soucieux de l'âme d'Israël et il sait que le peuple d'Israël est tellement bon dans son intériorité et il sait que Akadosh Baruch Hu aime tellement l'assemblée d'Israël et sa Neshama qu'il dit qu'en réalité il ne voit jamais de faute nulle part. Donc, quand Rabbi Shimon Bar Yochai voit un homme d'Israël, il l'appelle tzaddik. Même si, apparemment, à l'extérieur, il ressemble à un rachat. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit. À la fin des temps, lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai, comment est-ce qu'on reconnaîtra la dernière génération? Elle sera vilaine de l'extérieur et très très belle dedans. Donc quand tu verras extérieurement, tu verras des gens fauter et tu vas te dire « Mais ah, jamais le Mashiach va venir !» Et Rabbi Shimon, juste, il te met une gifle et il te dit « Tais-toi, tu n'as rien compris. » Ce sont des fautes extérieures, superficielles. À l'intérieur, ce sont tous des tzadikim. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez compris? Ça, c'est une vision kabbalistique de la réalité humaine. Et plus tu es dans le sens premier de la Torah, pas dans la Kabbalah, dans le Pshat, plus c'est l'inverse. Plus tu deviens très très sévère, très coupant, et tu es mahmir dans la Halakha, alors que les Kabbalistes ont une tendance naturelle à être cool. Ça s'appelle Kula en hébreu. Torato shel Rabbi Shimon, eina mityacheset la kilkulim, ela behekcher la chitzoniut. Donc en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il dit dans sa Torah, maintenant qu'on est en train de comprendre sa façon de voir, sa vision de vie, c'est que toutes les fautes ne sont que superficielles. Il n'y a jamais de vraie faute intérieure dans le peuple d'Israël, ça n'existe pas.
Okay.
C'est comme s'ils étaient au courant de rien, parce que s'ils étaient réellement au courant, jamais ils auraient fait cette erreur. Ça peut être très dangereux. Ça peut être très très dangereux. Un meurtre involontaire, Ken. Si le type n'a pas conscience de tout ça, ça peut rentrer aussi dans ce lien.
Ah, juste, c'est des fautes qui sont faites. Il y a le disque de Tinoch Shenishba.
Tinoch Shenishba, oui.
Apparemment, Rabbi Yochanan, il dit que tout le monde est comme ça.
Pas Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Il dit que tout le monde est comme ça.
Ken. Comme si tout le monde était dans la catégorie qu'on appelle Tinochot Shenishba.
Il y a deux catégories.
Je suis en train de parler d'une manière générale. Encore une fois, je vous répète, pour ne pas que vous sortiez du cours avec quelque chose de faux en tête, la halakha n'a pas été retenue comme lui. Mais la Gemara n'a pas pour autant enlevé tout ce qu'il a dit. Il y a des gens qui disent des choses dans la Gemara, on les laisse, même si la halakha à la fin n'est pas comme. Pourquoi on laisse ces choses-là? Parce qu'il y a quelque chose de très important dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire, il y a une vision comme ça. Prends-la en compte. Même si pour l'instant, la halakha n'est pas comme ça. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, voit l'intériorité. Pourquoi il voit l'intériorité des choses? Pourquoi il est capable de voir l'intériorité qui est bonne des choses? Il a fait, mais autre, parce que tout simplement, dans son étude, qu'est-ce qu'il étudie? L'intériorité. Donc, comme il étudie l'intériorité, qui est la Kabbalah, qui est la Torah des secrets, qu'est-ce qu'il voit dans cette intériorité? Que du beau. Que de la vie, que du bien. Et tout ce qui se passe à l'extérieur, ah, il s'est trompé, c'est rien, il n'a pas fait exprès, il n'a pas voulu. Le Rav Kook, qui va dans cette direction d'ailleurs, dit qu'à chaque fois qu'un homme d'Israël faute, au moment où il faute, il est déjà en train de faire tchouva. Incroyable. Pendant la faute. Parce qu'il n'est pas entier à l'intérieur avec ce qu'il est en train de faire. Et c'est ce qu'il dit le Rav Kook dans son livre Orot HaTshuva, incroyable.
Si le mec il fait un braquage, il a des mois
plus tard, parce que sa mère elle a pas de quoi manger et qu'il a téléphoné à droite à gauche, personne lui a répondu, donc il est en train de se dire ma mère, je dois lui. Il sait pas, il veut juste lui donner à manger, c'est pas véritablement son cœur. Je suis en train de vous dire des choses extrêmes. Mais en réalité, ça existe. Encore une fois, ce n'est pas retenu dans la halakha. Mais cette idée, cette idéologie existe.
Et elle existe, c'est-à-dire que enfin, le mot que je il existe, d'accord, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas vrai. Que, bah, on condamne les gens. Réapparaît.
On verra. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Si tu as un enfant un jour, et c'est une histoire vraie, qui, pendant un mois, vole dans le porte-monnaie de son ami, et il ramène à la maison à chaque fois qu'il va chez son ami, il lui ouvre le porte-monnaie, il a découvert où se trouve son truc, il attend que personne le voit, il lui vole de l'argent, il ramène chez lui à la maison. Un jour, le type met une caméra dans la chambre parce qu'il voit qu'il lui manque de l'argent, et on filme cet enfant en train de voler, et on amène le film à son papa. Deux sortes de réactions. Première réaction, espèce de menteur, espèce de voleur, tu n'as pas honte. Qu'est-ce que j'ai fait d'avoir un enfant comme toi dans ce monde? Des claques, des machins, tu sors plus de cette chambre pendant un mois. Réaction générale, beaucoup de gens. Deuxième réaction, mon fils, tu es tellement fort. Mais quelle intelligence! Comment t'as fait pour ne pas que personne te voie? Et ça fait déjà 3 mois et tu gardes ça dans ton cœur! Tu dois souffrir. Viens, on utilise ta puissance pour aller maintenant voler des secrets dans l'étude de la Torah. Si tu es capable de faire ça, tu vas être un géant dans la Torah. Deuxième possibilité. Les Chachamim nous disent que la deuxième possibilité est beaucoup plus forte que la première. Même dans ce monde. Parce qu'en réalité, tu vas prendre cet enfant, tu vas en faire un géant. Alors que si tu l'as cassé dans ce qu'il était, tu l'as traité de voleur, c'est fini, tu l'as rentré dans une catégorie.
Donc il a cette capacité là de...
Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est cette capacité qu'il a. C'est-à-dire de prendre la lumière et l'étincelle divine qui se trouve dans chacun, et c'est ce qu'a utilisé la Chassidout plus tard, pour justement voir le bien, ce qu'on appelle Nekudat Ha'or, le point de lumière dans chacun de nous, et de là-bas tirer que le bien, que le bien, que le bien. Arrête de te figé vers le noir, va vers la lumière. Quand tu commences à t'occuper de lumière, tu vas commencer à voir que de lumière. Quand tu commences à voir du noir, tu ne verras que du noir à chaque fois. Comme la sortie d'Égypte. Est-ce que tu sors d'Égypte pour sortir d'Égypte, pour te sauver d'Égypte, ou est-ce que tu sors d'Égypte pour venir en Israël? C'est deux manières de voir. Il y a des gens qui quittent la France parce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas, parce que. Non. Si tu quittes parce que tu vas en Israël, tu quittes même pas la France. Tu vas en Israël. Pas pareil. J'ai jamais quitté quoi que ce soit. Je suis allé vers. C'est deux manières de voir Rabotai. D'accord? Et aujourd'hui, dans la dernière génération qui est messianique, nous disent les sages, il vaut mieux être dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire rajouter de la lumière dans ta vie et arrêter de broyer le noir dans lequel tu es, parce que tu t'en sortiras jamais. Tu vas toujours être dans la boue. Rajoute de la lumière et tu verras que ta vie va se transformer, va grandir. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, de voir la vie du côté positif, optimiste.
C'est pour ça qu'on ne peut pas réprimander.
C'est pour ça que personne n'est capable aujourd'hui de réprimander, parce que pour réprimander, il faut être rempli d'amour. Si tu n'es pas rempli d'amour, c'est en réalité parce que tu veux casser l'autre pour te mettre toi-même un petit peu plus en relief et toutes les histoires d'ego. Ken, c'est bon, on continue. Zo achat hanekudot hamerkaziot shel Torat HaSod. Maintenant, vous comprenez ce que c'est Torat HaSod. Alors, si vous avez compris ce que c'est Torat HaSod, dites-moi ce que c'est. Est-ce que quelqu'un est capable, jusqu'à maintenant, de me définir qu'est-ce que c'est que la Torah du Sod? Ma? Voir la vie? Pas seulement, parce qu'on voit aussi l'extérieur, attention. Hein.
Et pas juger de l'extérieur.
Vous avez dit une phrase un jour, c'était avoir les yeux de l'intérieur.
Il y a fait, mais pour voir quoi?
Toutes les facettes.
Il y a fait, Méod. La totalité, pas que l'intérieur. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas aveugle à ce qui se passe dehors. Mais il est capable de voir ce qui se passe dehors avec les yeux du dedans. Donc le kabbaliste est un homme qui est capable de voir l'entité, l'entièreté. Il ne voit pas que des détails. Parce que s'il voyait des détails, eh bien c'est là où tu tombes. Parce que si je mets en relief un défaut à toi, c'est fini, je n'ai plus envie de te regarder. Je ne me suis pas marié avec cette femme parce que son oreille gauche, elle est un tout petit peu plus grande que l'oreille droite. C'est fini. Si tu ne sais pas mettre les choses dans un contexte, dans l'ensemble, tu ne comprendras rien, tu ne verras jamais rien dans ta vie. Et c'est pour ça que les kabbalistes sont dans l'étude du Klal Israël, de la Neshama collective d'Israël. Donc, elles prennent en compte le peuple, les individus du peuple, la terre, le temps dans lequel les choses se font. Tout est pris en compte. Vous avez compris ? Donc, l'une des références de la Kabbalah, donc de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'à chaque fois que tu veux traiter d'un sujet quelconque, bien, il veut vendre une croisière, il est obligé de toucher trois éléments. Le temps, c'est-à-dire il doit persuader que c'est un super temps, qu'il va faire beau. L'espace, c'est-à-dire l'endroit où ça va être. Vous allez aller du côté des... Oh, c'est une merveille. Et l'homme lui-même. C'est-à-dire que tu vas avoir du plaisir, tu vas kiffer. Si tu n'utilises pas les trois éléments, il y a quelque chose qui boite dans ton système. 10%, tu me vois. Vous avez compris ? C'est ça tout le Inyan. Et d'où vient cette formule ? De Avraham Avinu dans Sefer Yetzira. Sefer Yetzira, c'est un livre, premier livre de Kabbale qu'a écrit Avraham Avinu. Il nous dit qu'à chaque fois que tu traites un sujet, traite-le avec ces trois éléments. Le temps, l'espace et les identités humaines. Ok ? Donc, HaKabbalah, troisième en bas, le dernier chapitre en bas. Donc, le mot Sod en hébreu veut dire
secret.
Non.
Profondeur.
Non. Je viens de vous le dire. Il a fait, Meod. Globalité. Est-ce que c'est vrai au niveau sémantique ? Oui ou non ? Ou c'est juste parce que je viens de vous l'expliquer ? Oui, c'est vrai au niveau sémantique. Prenez le dictionnaire et écrivez les histoded. Qu'est-ce que c'est les histoded ? Devenir un. Faire un groupe. Voir une totalité. Qui a dit d'ailleurs sod dans la Torah ? Qui a utilisé cette terminologie ? Non.
Moshe ?
Non. Vous avez encore à peu près 3858. Non. Yaakov, quand il voulait bénir ses enfants, il a dit à Shimon et Lévi, Bessodam, dans leur secret. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, Bessodam, quand ils sont ensemble ? Il y a un problème. D'ailleurs, tu mets Shimon et Lévi ensemble, c'est une catastrophe. Ils cassent tout. Il n'y a plus de monde. Donc il faudra les séparer dans les tribus sur la terre d'Israël. Si tu les mets ensemble, ces deux-là, ils rentrent, il ne reste plus rien de nos ennemis en 10 minutes. C'est bien, ça peut être bien. C'est d'ailleurs eux qui ont fait toute la panique avec Dina. Une fois que Dina a été violée par Shrem, c'est Shimon et Lévi qui étaient ensemble, qui ont tout massacré. Hein. Ça te plaît, toi ? Non ? En réalité, c'est là-bas où est utilisé le terme Bessodam, qui veut dire donc
ensemble.
Dans leur ensemble. Donc le mot Sod en hébreu ne veut pas dire seulement secret, c'est vrai que ça veut dire secret, mais qu'est-ce que c'est que le sens du secret ? L'ensemble. Est-ce que l'ensemble est plus grand que la somme des détails qui le composent ou pas ? Oui, même en mathématiques. C'est-à-dire que si j'ai un ensemble, il est plus grand que tous les détails qui sont à l'intérieur. Ok ? Et ça, c'est la Torah des secrets. C'est la Torah de l'ensemble. C'est la Torah de la vision globale des choses. C'est la Torah qui prend en compte tous les éléments. C'est la Torah qui considère que Dieu n'est pas dans le ciel, ni dans la terre. Il est partout. C'est la Torah qui prend en compte que la Neshama sans le corps et le corps sans la Neshama ne peuvent rien faire, donc ils sont obligés de faire les deux. C'est la Torah qui ne peut pas comprendre comment un homme ne soit pas marié. Parce qu'il ne peut pas être complet, il ne peut pas réellement aboutir. Donc en réalité, c'est la totalité, c'est la vie par définition. Donc le livre clé de cette Torah, c'est l'arbre de la vie, d'une manière générale. On l'appelle Etz Chaim. Hein? Qui l'a écrit Etz Chaim ? Le Hari HaKadosh, en se référant à quoi ? au Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est tout. Les livres du Rav Kook, que vous lisez, tous les livres en blanc, là. Orot Israël, Orot Hatshuva, Orot Hatria, Orot... Tous les Orot. Le Rav Kook dit, j'ai écrit ces livres à partir de quoi? Du Zohar et des Kitvei Arizal. Tout ça. Moralité, le Rav Kook, c'est la suite logique des kabbalistes de cette époque. Tu étudies le Zohar avec une nouveauté extraordinaire, c'est que le Rav Kook a réussi à faire quoi? Non, ça c'est déjà le Zohar, c'est une dimension de Klal. Il a fait, mais il sait parler le langage de la dernière génération. Alors que si tu rentres dans le Zohar, ce sont des notions tellement grandes que tu te demandes comment tu peux les utiliser aujourd'hui.
Il avait déjà fait ça, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi.
Mais à son époque, et c'était pas encore à son époque, c'était pas possible parce qu'il a enfermé tout ça dans une boîte. Encore une fois, il y a fait Meon, c'est exactement ce que aujourd'hui doivent faire les nouveaux Talmidei Chachamim, c'est mettre à la portée du peuple d'Israël toute cette Torah des secrets pour que ça leur paraisse normal. Ça me paraît naturel, cette Torah. J'aime cette Torah parce qu'elle coule de source. Elle est une Torah de vie. C'est ça, exactement ça. Ken? C'est-à-dire qu'elle est cachée à un certain moment et elle devient obligatoire, pas autorisée, obligatoire à un certain moment. Par exemple, il est un secret de ne pas enseigner les rapports sexuels à un enfant de 5 ans. Mais quand il a 20 ans, s'il ne connaît pas ce problème, il aura des problèmes quand il va se marier. Donc le secret qui était à 5 ans, il devient une obligation à 20 ans. C'est notre génération. Et c'est le Zohar qui le dit et le Arizal qui le dit. Si tu écoutes Rabbi Chaim Vital et le Baal HaSulam et tous les grands kabbalistes, c'est même à partir de 5 ans.
5 ans?
Ok. Quoi tu cries? 5 ans. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est plus du tout une époque comme vous l'aviez imaginé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde, okay, c'est plus du tout un problème de dire que tu étudies. Il y a 20, 30, 40 ans, c'était waouh. Ok.
S'il vous plaît, par rapport à la Kabbalah, quoi. C'est-à-dire que faut quand même avoir. Peu importe l'âge, on s'en fout de l'âge, mais il faut avoir quand même.
Il y a une base, il faut que tu étudies, surtout avec quelqu'un qui est un maître dans la matière, c'est tout. Après, il va savoir quoi te dire, quoi ne pas te dire, mais ne t'inquiète pas.
Il y a quand même juste que tout le monde qui a atteint un certain niveau, ils seront obligés d'étudier la Kabbalah.
Ouais.
Il y a énormément de gens qui étudient la Kabbalah.
Il y a un problème, c'est un problème. Selon certains rabbanim, on ne peut pas appeler un rav rav s'il ne connaît pas la Kabbalah.
Donc,
Quel risque il y a? Il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun risque. De toute façon, ce que tu n'es pas capable de comprendre, tu ne le comprendras pas. Et de toute façon, ce n'est pas du tout ce que tu crois que tu vas déceler du Zohar. C'est pas ça. Okay. Les risques étaient à une certaine époque. Le Ari HaKadosh, Rabbi Chaim Vital, donne dans la Hagdama la date précise, à peu près 400 et quelques années, où l'interdiction d'étudier est levée et il faut ouvrir des yeshivot de Kabbalah dans le monde entier. Donc c'est déjà depuis belle lurette que c'est terminé toute cette histoire. Seulement c'est resté dans l'esprit des gens parce qu'il y avait une certaine peur de certaines choses que le Ramchal HaKadosh balaye d'un coup de souffle et tous les autres kabbalistes. Top. A Kabbalah oseket bapnia Elohit el Adam. Alors, quelque chose de très très nouveau. Alors que dans le Pshat, l'homme cherche Dieu, dans la Kabbalah, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est faux. C'est bon. Je voulais dire que c'était fort et c'était beau. Mais je t'ai inversé exprès les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas faux. C'est fort. J'ai fait exprès de dire c'est faux pour dire c'est fort. Et c'est de bord pour dire... T'as compris? C'est pas grave. C'est juste un petit peu de travail sur le cerveau droit et sur le cerveau gauche. Ken ?
C'est une question que vous avez posée ?
Non.
Non, d'accord.
Non, non, c'est pas une question. Je dis tout simplement que la Kabbalah prend en compte le fait que c'est Dieu qui aborde l'homme.
Donc la Kabbalah, tous les yeux de la Torah ?
Il a fait. Mais il faut le voir avec les yeux de la Kabbalah. Est-ce que dans la religion juive, s'il y en a une, c'est l'homme qui cherche Dieu, ou bien c'est Dieu qui descend vers l'homme? Et ça, c'est la chrétienté et toutes les religions. Ça n'existe pas. Il n'y a pas cette chose dans le judaïsme. L'homme n'a pas à chercher Dieu. Dieu nous a déjà trouvés. Il est déjà descendu. Il nous a déjà donné la Torah. Il n'y a rien à chercher. Vous ne trouverez jamais. Il n'y a rien à chercher. Quand tu cherches, ça veut dire qu'avec ton petit esprit, Ken, et tes cellules limitées, tu as l'impression que tu vas encercler le problème divin. Ça y est, j'ai compris ce que tu es. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit laisser l'infini nous traverser et capter le maximum de ce qu'on peut. C'est tout ce que tu peux faire. Donc sois dans l'humilité, tu ne pourras jamais trouver Dieu, donc ne le cherche pas. Fais du bien à l'humanité tout entière. Reste tranquille. Et laisse l'infini te traverser.
Sans le cherchement, on n'arrête
d'étudier alors. Pas du tout. Tu étudies comment il descend vers toi. Quel rapport? Tu crois qu'en étudiant, tu cherches Dieu? Tu dévoiles comment il descend dans ce monde, c'est tout. C'est ça la vraie étude. Ken?
Il y avait une interprétation que j'avais lue de Kedoshim, où il disait que le passage où il dit je suis l'éternel.
Ani Adonai Elohim.
Oui.
Kadosh Ani Adonai Elohim.
Et l'interprétation, elle disait qu'en fait, c'était en le sanctifiant, on lui donne le pouvoir d'être Dieu. Et que donc, en fait, c'est un échange équivalent.
Tout à fait. Ce que tu dis, c'est en réalité, Atem Edai va Ani El. Si vous êtes mes témoins, je deviens Dieu. S'il n'y a personne dans ce monde pour témoigner de mon existence et de ma capacité, et de ma venue vers le monde, je ne suis qu'une idée dans le monde céleste. Donc vous, le peuple d'Israël, vous êtes censé faire quoi? M'aider à descendre, c'est tout. Et à dévoiler ma descente. C'est pas de vous aller chercher qui je suis. C'est de l'orgueil, ça. C'est-à-dire, chercher à montrer comment il descend dans ce monde. Comment il se dévoile dans la matière. Comment il se dévoile dans les actes humains. Comment il se dévoile dans tous les éléments de ce monde. Ça, c'est la véritable force. Donc en réalité, est-ce que c'est quoi comme Torah? Toute cette Torah là de la Kabbalah, c'est quoi comme Torah? Quel est le but de toute cette Torah?
Humaniste.
Fais-moi, tu as dit le mot, ça me suffit. De recevoir. De recevoir. Et comment ça s'appelle en hébreu? Kabbalah. C'est tout, les Kabbel.
Recevoir quoi?
La lumière divine et tout ce qu'il veut nous faire passer et tout son ratson. C'est tout. À partir du moment où tu sais le recevoir, tu as tout compris. Donc devient quoi? Un ustensile de réception. C'est tout. Maintenant, il y a des ustensiles qui sont petits. Il y a des ustensiles qui sont un peu plus grands. Il y a des ustensiles qui sont énormes. Comment est-ce qu'on peut mesurer les ustensiles de réception? Hein? Qui c'est qui a dit la volonté? C'est exactement ça. C'est en réalité le kli, c'est seulement ce que tu veux. C'est ça le kli. Donc, ce que tu veux dans ce monde, comment je peux savoir ce que tu veux vraiment dans ce monde?
Par tes actions.
Bien fait, moi, par tes actions. Je vais utiliser une terminologie qui va vous aider un petit peu plus dans votre vie. Ce qui vous fait courir. La route, courir, c'est les mêmes lettres que ratson, vouloir. Donc, si tu cours pour certaines choses, c'est que tu as besoin et envie de ces choses-là. Donc comment est-ce que je peux vous juger, par exemple, si je veux savoir combien vous voulez, ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, comme exercice?
Vous
courez dans le couloir? Non.
Non, c'est vous mettez chacun les centres d'intérêt.
Non.
Quand on court, vous nous demandez où on va?
Tout simplement, je prends votre emploi du temps d'il y a 3 mois en arrière. Quand tu vas acheter une maison, on te demande tes trois derniers relevés bancaires. Moi, je vous demande vos trois derniers yomanim, des trois dernières années. Je veux voir les rendez-vous que vous aviez dans vos jours. Qu'est-ce que tu as fait pendant tous ces jours-là? Je peux te dire, voilà, le domaine principal dans sa vie, c'est toujours la même chose. Rendez-vous ici, rendez-vous ici, rendez-vous ici, c'est toujours les mêmes sujets. Donc, c'est ce qui le fait courir dans sa vie. Comprenez comment ça marche? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, la semaine prochaine, vous m'apportez tous vos agendas. Vous n'avez pas. C'est très important de voir ce qui vous fait courir dans ce monde. Ratson égale la route. Ken.
Alors, est-ce qu'on peut avoir les yeux de la Kabbalah par la Torah même?
Bevadai. Bevadai. La Torah. Dans la Torah, cette Kabbalah existe.
Non, c'est pas juste par la Kabbalah.
Il y a fait mort. Ça veut dire que le véritable pshat de la Torah, c'est quoi? C'est le sod. Tu as raison. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna, dans son Sidour, qu'est-ce qu'il dit? Que si tu n'as pas compris le sod, tu n'as jamais rien compris au pshat de la Torah.
Alors, est-ce que ça veut dire que pour être un bon rabbin, c'est pas la peine d'apprendre la Kabbalah, c'est juste comprendre la Torah?
Exactement. C'est ça en réalité, c'est d'entendre ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait dans la neshama de cette Torah que tu es en train de lire. Et que tu ne restes surtout pas au niveau de l'histoire, du pshat. Pshat akatuv ofer otra letipesh. Da'alecha sheyesh revadim amukim yoter. Tu parles hébreu, toi? Ça s'entend. Ça me plaît bien, dans ton accent français, entendre l'accent israélien. Klomar, bachibur ben erkei kodesh, ha'en sof, l'arachim shel ha'olam hazeh ha'mugbal bechukav. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un véritable kabbaliste? C'est celui qui fait le mariage entre le haut et le bas. Entre l'infini et le fini. Entre la neshama et le corps. Entre le jour et la nuit. Donc, c'est celui qui voit tout dans l'ensemble, sans arrêt. Ça veut dire que même s'il est en train de voir quelque chose, un point maintenant, qui est Nekuda Shchora, un point négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rigoler. Comme Rabbi Akiva. Quand ils sont allés avec ses élèves voir le Chorban du Beit Amikdash et qu'ils ont vu un Shu'al Yotze mi Beit Kodesh HaKodashim, tous les élèves ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il rigolait. Et quand ils lui ont dit, mais Rabbeinu, comment tu peux rire? Il a dit, moi, c'est moi qui me pose la question, comment vous pouvez pleurer? Si vous pleurez, c'est que vous ne voyez pas toute l'histoire. Vous êtes en train de regarder un détail. Il dit, alors explique-nous pourquoi tu rigoles. Mais, si la prophétie d'Akadosh Baruch Hu qu'un jour il y aura des renards qui sortent ici, elle s'est réalisée, ça veut dire que la prochaine prophétie, c'est que le peuple d'Israël va revenir sur sa terre. C'est pour ça que je rigole. C'est juste une question de temps. Comprenez comment on peut devenir optimiste dans la vie? Chaque chose que tu vois, tu peux la voir avec une guicha, shona la chaloutin, avec une approche complètement différente. Alors il y a des gens, c'est des râleurs tout le temps, tout est noir. Il y a des gens qui se disent, mais pas du tout, c'est très très bien. C'est magnifique ce qui s'est passé. C'est pour ton bien. Mais pour ça, il faut voir une image globale. Et au niveau du temps, trois éléments, rappelez-vous. Et au niveau de l'espace, et au niveau des êtres. Toujours le même sujet. Quel?
Quel? En fait, on devient fou à force de voir toute la globalité à chaque fois des choses, à part dans tous les sens.
Moi, je pense que c'est l'inverse. À force de regarder que des détails, on devient fou. Je pense exactement l'inverse. Parce que imagine-toi maintenant que quelque chose t'arrive aujourd'hui. Si tu ne sais pas mettre les choses en proportion par rapport au tout, tu vas devenir fou. C'est toi qui vas perdre les pédales. Au contraire, ça va mettre en relief la situation présente maintenant. Et tu risques de devenir malade. Au contraire, en ayant une image globale de tout, tu as beaucoup plus de orech ruach. Tu as plus de sérénité.
Alors, moi, quand on parle, moi, je pense souvent à l'arborescence et ça part dans tous les sens. Dans ma tête, du coup, j'arrive même plus à vous écouter.
Quand, j'ai pas compris.
Parfois, quand je vous écoute, ça part en arborescence dans ma tête.
Okay.
Et j'arrive plus à vous écouter.
Alors, il faut poser les questions pour revenir à l'essentiel.
Ouais, enfin,
c'est ça. C'est ça le travail. Imagine-toi qu'une feuille dans un arbre, Elle a oublié qu'elle fait partie de l'arbre. Elle regarde ses copines. Il y a combien de feuilles dans un arbre? Des milliers. Donc, imagine-toi, tu es une feuille. Tu regardes à droite, tu vois 10 000. Tu regardes à gauche, tu regardes 10 000. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi? C'est tout ce monde, c'est un ensemble de feuilles. D'accord? Jusqu'à ce que la feuille d'à côté lui dit, psst, psst, tu sais que tous ces détails font partie de quoi? D'un arbre. C'est ça la Kabbalah. C'est-à-dire? Donc ne te perds pas, au contraire, reviens vers l'essentiel. Imagine-toi que je doive maintenant te... te décrire. Qu'est-ce que je vais décrire? Il a des doigts, il a des ongles, il a des yeux. D'abord, qu'est-ce que je vais dire? C'est un homme. Avant de rentrer dans les détails, ça c'est la Kabbalah. Si tu commences à rentrer dans les détails de tout, tu vas te perdre. C'est là où tu te perds. Au contraire.
Et l'homme, il n'a pas une plus grande capacité que la femme à être comme ça, avoir une vision globale. La femme est plus dans le détail.
Les deux doivent se marier. J'ai répondu tout à l'heure. Zachar venekeva bera'am vaikrashmam adam. L'homme par rapport à la femme, c'est la neshama par rapport au corps. Ishto kegufo. Donc la femme, c'est le corps. Donc c'est pareil. Encore une fois, on revient au premier degré. Ça ne peut pas être ni l'un ni l'autre. Ça doit être les deux ensemble. Yesh le'azkir, quatre shurot avant la fin, qui habasis ha-théologi shel ha-yahadut hu emunat ha-yichud. Il faut comprendre que le fondement même du judaïsme, c'est cette emuna de l'unicité, de l'entièreté. Qui a mis ce degré-là en relief le plus que tous? Merci pour le kavod, mais... Rabbi Moshe Chaim Lutzato, Alav Shalom, le Ramchal. Le Ramchal, dans tous ses livres, il parle de Emouna Tayichoud. C'est-à-dire cette émouna de voir l'un dans le tout. Par exemple, je rentre dans cette classe, vous êtes bliaïnara, beaucoup d'élèves. Si je commence à regarder seulement les détails que vous êtes, chacun d'entre vous, je me perds. L'essentiel dans ce cours, c'est le fil invisible qui relie tout le monde. Et quel est ce fil-là? Comment vous pouvez l'appeler? C'est le sujet de ce cours, on est d'accord. Vous êtes tous intéressés apparemment par le sujet de ce cours. Et c'est pour ça que vous êtes là. Donc il y a quelque chose qui vous unit, que tu ne peux pas toucher avec les mains. C'est la Torah qui est enseignée dans ce cours. Donc c'est une Torah qui est transparente apparemment. Tu ne peux pas la toucher, mais c'est celle qui fait le lien. Eh bien c'est exactement la même chose. Dans ton corps, qui c'est qui fait le lien entre tous les membres? Neshama, qui utilise le sang pour circuler partout et pour amener toutes les informations partout. Mais en réalité, s'il n'y a pas de Neshama dans ce corps, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je sors la Neshama du corps, le corps il éclate en morceaux, il n'y a plus rien. Donc il revient et il n'y a plus rien. Au bout de quelques mois dans la tombe, c'est de la poussière, c'est fini. Qu'est-ce qui faisait ensemble que je sois entier? La Neshama. Pourquoi vous êtes levé ce matin avec tout? Tu as une oreille qui est restée ce matin sur ton traversin? Non. Tu n'as pas de traversin, tu dors sur le matelas directement. Est-ce que tu as une oreille qui est restée là-bas? En te disant, s'il te plaît, vas-y, je suis crevé, moi. J'ai pas la force d'entendre aujourd'hui. Quoi que ce soit. Tu peux me laisser dormir jusqu'à 2 heures? Tu as déjà vu une histoire pareille? On peut faire un film, ça peut être intéressant. Mais en réalité, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que quand tu es venu au cours, qui est venu? Tout le monde. Ils sont tous d'accord. Tes milliards de cellules, tes oreilles, tes yeux, ton nez, tes poils, tout le monde s'est dit, allez, on y va. Ah, justement, c'est pas évident. C'est ça tout le inyan. Ça dépend quelle faute. Et tu as raison, dans certaines fautes, c'est tout le corps qui est associé à la faute. Et dans certaines fautes, pas tout le corps. Faut savoir. Beseder gamour. On continue, on termine. Donc, Emunat Ayichud, n'oubliez pas ça. Qui peut me traduire cette terminologie de ces deux mots-là, Emunat Haïchoud? Qu'est-ce que tu as dit?
Certification de l'unicité de
Dieu. C'est très très bien, je suis très très heureux que les anciens cours restent gravés dans votre mémoire. Ça me fait plaisir. Emouna, vous avez traduit maintenant par certifié. C'est vrai, anime amen et adavar. L'anima amin beze buba shiyesh bashamayim. Je certifie. Donc, je certifie quoi? Que tout ce monde tient par une seule et même unité. Si tu comprends ce secret, tu commences à être grand. C'est ça le véritable secret dans ce monde. Extraordinaire. Et après, tu commences à voir des exemples dans ta vie. Tu sais, attends, c'est pas possible. Je suis parti sans faire exprès chez le copain de mon frère. Là-bas, j'ai vu la sœur du copain de mon frère. Ça va devenir mon épouse. Quel rapport? Comment Akadosh Baruch Hu, il fait tous ces ficelles? Hier, quelqu'un me téléphone en me disant... Va déposer un tableau dans telle galerie, machin, le type, on dépose la galerie, le tableau, le type, il me téléphone en me disant, écoute-moi, tu connais la femme qui a apporté le tableau? Je lui dis, un petit peu, pas vraiment. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est la mère de mon frère, de mon demi-frère, avec lequel je ne parle pas depuis 2 ans. Est-ce que c'est un siman pour qu'on fasse le shalom? Des trucs incroyables. Pourquoi? Parce que tu as conscience que tout est un. Tout est géré par cette unité. A rovedapnimi, je termine avec ça, shel emunazo, donc le fondement, le plus secret de cette emuna, mavlit et a harmonia, il y a une harmonie. C'est ça le but, c'est de voir l'harmonie qui est entre tous ces éléments. Ben kol chelke achaim, entre tous les détails de la vie, toutes les parcelles de la vie. Zot le umad haroved hachitzoni, shamilchama bo matmedet ben hatov ou ben hara. Et ça, c'est en face de quoi? De tout le temps voir dans ce monde la force des ténèbres et la force de la lumière. Et toujours ils se battent comme un bon dessin animé japonais. Il y a toujours la force des ténèbres, la force de la lumière. Et là-bas, on est toujours apeuré parce que le bien, c'est toujours mesquin et le mal, c'est comme. Du bidon de chez bidon. Ça ne veut rien dire tout ça. Arrêtez avec toutes ces bêtises. Il y a un seul gérant de cet univers. C'est lui qui fait tout. Même ce qui te paraît un peu moins bien aujourd'hui. Et bien entendu, ce qui te paraît bien. Tout ça, c'est une seule et même unité. Sachez garder ça dans votre cœur et voyez de plus en plus l'être comme quelque chose d'entier. Quand tu dois traiter un problème quelconque dans le corps humain, ne prends pas juste la partie du corps où se concentre le problème. Ça vient d'un tout. Et au niveau du temps, ça veut dire que peut-être il s'est passé quelque chose. Et au niveau de l'espace où ça s'est passé, et au niveau de l'être lui-même. Et quand tu sais gérer ces 3 éléments, tu trouves la solution et tu guéris la personne. Toda Rabba.